Cours de philosophie politique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 28 octobre 1992.
Un cours un peu particulier, puisqu'on aura une question disputée en philosophie politique. Personnel et politique. C'est un qui est extraordinaire. comme la vertu de religion est à la fois personnelle et communautaire. Il y a quelque chose d'analogue, puisque la vertu de religion est liée à la justice, une justice imminente, parce que ça regarde ce que l'homme doit à Dieu. Alors, pour Platon, le philosophe, c'est celui qui sort de la caverne par la contemplation de la vérité. Et grâce à cette contemplation de la vérité, il voit, il comprend la finalité de l'homme, ce pourquoi l'homme est fait. Il doit rentrer dans la caverne pour enseigner les hommes. Les enseigner, les diriger, les éduquer. Être leur grand éducateur, leur père, leur roi. Parce que la royauté est toujours liée à la paternité, il ne faut pas l'oublier. C'est la forme de gouvernement qui est la plus paternelle, la plus proche de l'aspect affectif des hommes. Et donc, l'aspect éducation. Alors, c'est très très net chez Platon. C'est très très net chez Aristote. Alors, c'est l'avantage, c'est que eux sont encore dans une forme d'état qui reste humain, à taille humaine. La cité. L'homme, naturellement, est contemplatif, puisque mon âme, unie à mon corps, avant d'être unie au corps, était dans une vie contemplative pure, à la suite des dieux. Il y a quelque chose de divin, l'âme spirituelle est divine, et elle est faite pour la contemplation. Et la contemplation des dieux, parce que elle s'est mal conduite. Pécheresse. C'est toujours le péché originel. On est hanté du péché originel. Alors, elle est unie au corps. Et par le corps, elle implique l'exigence d'une éducation. Il faut qu'elle se ressouvienne, se remémore de ce qu'elle a été avant, qu'elle ne l'oublie pas. Parce que le corps étant tombeau de l'âme risque tout le temps de faire oublier ce qu'on était précédemment. Alors, il s'agit de réveiller, réactuer l'âme. Oui, le Ménon montre ça admirablement. Au sens rigoureux, il n'y a pas de causalité dans l'enseignement. Il n'y a que simplement une présence où on réactue. Et on réactue en posant des questions. Et on passe à tout en soi. Donc il n'y a pas de causalité. Et ça c'est important parce que comme l'éducation, la païdéia chez les Grecs, chez Platon et chez Aristote, joue un rôle capital au point de vue politique. Parce que c'est la réserve future, c'est les jeunes. Les Grecs, instinctivement, sont portés vers les jeunes, de multiples motifs, mais politiquement, pour les éduquer. Parce que c'est les futurs citoyens. C'est les futurs qui prendront le gouvernement. Donc on doit être très attentif. Ça fait partie de l'âme grecque. L'âme grecque est très attentive à ça. Vous voyez, il y a tout un aspect qui est du reste très curieux qui se relève jusque dans la sculpture et dans l'art grec. on n'est pas dans la vérité. Et donc, on ne va pas amener une vie humaine. Il faut sortir de la caverne pour trouver la vérité. Et c'est le rôle du philosophe. Mais comme il y a un corps, il y a une vie commune. C'est par le corps que la vie commune existe. Donc on serait tous des contemplatifs solitaires. Le corps donne ce poids et exige la vie commune. Exige en premier lieu cette vie commune qui sera parfaite au point de vue politique. Exige la païdéia. Pour Platon, il n'y a pas de famille au point de vue politique. La famille n'existe pas comme entité politique. C'est l'individu. L'État repose sur des individus. Des individus qui doivent avoir une œuvre commune, qui est la justice. C'est la justice qui fait le lien entre le bien qu'on contemple, le bien en soi qu'on contemple, et l'aspect de la communauté. Une communauté n'existe qu'au niveau de la justice. Et c'est la vision qu'on voit déjà chez Parménide. Il faut passer les portes de la justice pour entrer dans la contemplation. Et tant qu'on est ici sur la terre, on est sous le royaume de la justice. La justice est une participation de la bonté en soi et de la vérité en soi. Et la justice qui fait que chacun doit être à sa place, là où il peut être le plus efficace pour la communauté. Et alors, c'est les qualités des corps qui expriment justement les différences qualités des citoyens. Alors Platon prend une vieille théorie des corps qui sont plus ou moins parfaits. Il y a des corps d'or, des corps d'argent, des corps de cuivre, des corps de terre. C'est très très curieux parce que c'est qu'il assume toute une tradition là pour essayer d'expliquer ce que représente la communauté. Pour Platon, la politique n'est qu'un moyen terme en vue de la vraie finalité qu'est la contemplation. Il n'y a donc pas de finalité politique chez Platon. Vous voyez, j'allais dire dans le domaine pratique, dans la mesure où il y a une distinction entre le pratique et le spéculatif chez Platon, on pourrait presque dire que le politique est l'analogue des mathématiques. C'est moi qui dis ça, c'est pas Platon, le dit pas. Et l'analogue des mathématiques en philosophie. On passe du sensible à la participation et à la contemplation des idées en passant par les mathématiques. On passe du corps à la contemplation par la politique. Mais, donc la politique est un métaxus intermédiaire, nécessaire, parce que autrement on restera enfoui dans le corps. Et la païdéia, c'est pour sortir du corps, et la politique est là pour faire sortir du corps et arriver à la contemplation. C'est pour ça que, au sens rigoureux, chez Platon, il n'y a pas de bien commun. C'est la justice. Ce n'est pas un bien commun. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique que le roi peut mentir pour le bien des citoyens, parce qu'ils sont incapables de comprendre. Alors, le philosophe roi peut mentir pour aider les citoyens à être justes. Oui, c'est très significatif, parce que s'il y a un bien commun, il ne peut pas y avoir le mensonge. Et le mensonge détruit le bien commun, ce que nous voyons aujourd'hui. Et je crois que ça fait comprendre énormément Platon de voir cette petite chose qui donne comme ça en passant, mais qui est très capitale. Au fond, il n'y a que la contemplation. Pour lui, on est fait tous pour la contemplation. Alors, on doit voir le statut, on est uni au corps en raison du péché, et le corps oblige et nécessite la communauté politique. Mais la communauté politique elle-même, donc, provient du péché. Pourquoi il n'y aurait pas de politique ? L'origine de la politique, puisque c'est le corps, ça provient du péché. Et donc, il n'y a pas de bien. Au sens strict, il y a la justice. Et cela explique comment la politique, n'ayant pas de bien commun, tend vers l'unité absolue, qui est l'unité de la vérité, du bien en soi. Je schématise un tout petit peu, mais très peu. Je schématise pour aller plus vite, mais très peu. C'est ça l'intuition profonde de Platon. Platon, c'est le philosophe de l'âme spirituelle, de l'âme immortelle, de l'âme contemplative. C'est ça qui est l'essentiel chez Platon, c'est l'âme contemplative. La contemplation structure l'homme. La vérité structure l'homme. Et la vérité conduit à la beauté qui elle-même conduit au bien. C'est pour ça que la pensée, c'est l'un et le bien. La contemplation, c'est là le bien. Et toute la participation, toute la dialectique platonicienne va de l'un au bien. Et c'est les deux. Là, le point de départ et le bien, le terme. Mais au sens rigoureux, Platon n'a pas découvert la finalité. Il a découvert la cause exemplaire. Ah, ça, parfaitement. C'est un philosophe artiste. C'est un artiste philosophe. C'est le philosophe, c'est vraiment l'art qui commande tout. Et la contemplation pure. Et donc on retrouve tout le temps une dichotomie, comme une séparation entre l'âme et le corps. Et cette séparation, parce qu'il y a séparation, il ne peut pas y avoir de politique. Mais c'est très important, Platon, parce que ça nous montre le pourquoi qu'il ne peut pas y avoir de politique. Et comment la politique se détruit s'il n'y a pas une vision authentique de l'homme. Aristote, ce qui nous intéresse plus. Alors ça, évidemment, je vous conseille vivement de lire les politiques d'Aristote. C'est un livre extrêmement intéressant. L'éthique est encore plus intéressante, mais c'est un livre extrêmement intéressant. Je crois qu'on ne peut pas bien comprendre parfaitement la politique, l'éthique d'Aristote, si on ne voit pas la politique aussi. Les deux se tiennent. Mais l'effort d'Aristote, je crois qu'on peut le dire, c'est d'essayer de comprendre qu'il y a une éthique, qui a sa structure propre et qui ne dépend pas immédiatement de la contemplation. Donc il y a une éthique finalisée par l'aimant d'amitié. Je crois que c'est la grande intuition d'Aristote. C'est pas toujours explicité autant qu'on le voudrait, mais c'est comme toujours quelqu'un qui découvre. Vous savez, la découverte, c'est jamais très clair. C'est après, quand on a pris un peu de recul. Mais quand on découvre, on est dans le travail. bienvenue dans une famille. Donc j'ai vu la paille d'ayant, j'ai vu l'éducation. Et l'éducation familiale et l'éducation politique se tiennent. Donc, il y a ce fait, voyez. Et je crois qu'il faut bien comprendre ça si on veut entrer dans la politique d'Aristote. Ce qu'il faut faire, hein, ce que la recherche qu'on va faire, c'est d'entrer d'abord dans ce qu'Aristote dit, dans ce que saint Thomas dit, puis après, regardez aujourd'hui. Mais ne regardez pas bien comme un moderne. Est-ce qu'ils savent pas ce que c'est? Alors, il ne faut pas regarder bien comme un moderne. Il faut regarder Platon, Aristote, Machiavel, le prince. C'est très important de regarder Machiavel pour ne pas tomber dedans. Et Machiavel est très intéressant. Il est terrible, mais il est très intéressant parce qu'il fait comprendre un tas de choses. Ouais, c'est le monde moderne, Machiavel. Alors, il est intéressant au point de vue politique. Alors, au point de vue philosophique, hein, je parle au plan philosophique, il y a une réflexion philosophique dans Machiavel, le prince. Il y a cette distinction qu'on peut faire. politique et éthique. Alors que nous devons comprendre que l'homme est présent en politique, homo ut homo est, pars civitatis. L'homme comme homme est parti de la cité. C'est saint Thomas qui dit ça. Homo ut homo est parti de la cité. Oui. Et l'homme comme homme est capable d'atteindre Dieu, le bien séparé. Est capable d'atteindre l'ami, qui comme ami est au-delà de la cité. Et on ne peut pas faire là la distinction de maritain qui n'est pas juste entre l'individu et la personne. Comme si l'individu est une partie de la cité et la personne au-delà. Donc tout ce qui est personnel est en dehors de la cité, pas du tout. Le politique est personnel. C'est une communauté de personnes. Faire des séparations comme ça entraîne des conceptions complètement fausses, voyez, et qui proviennent pratiquement parce qu'on ne fait pas assez la distinction entre les deux. Et la distinction entre les deux est au niveau de la finalité. La finalité politique n'est pas la même que la finalité éthique. Au niveau de la finalité, mais il y a une finalité politique. Comme il y a une finalité éthique. Et c'est l'enchevêtrement des deux dans l'ordre de l'exercice qui fait que l'homme vit dans la cité. Alors il peut y avoir évidemment l'homme qui se sépare de la cité, le solitaire. Alors dans quelle mesure le solitaire est-il juste? C'est juste être solitaire si on est contemplatif. Si on n'est pas contemplatif, le solitaire, c'est celui qui se regarde. Pour Aristote, s'il n'est pas contemplatif, c'est un animal qui se regarde. Première chose qu'Aristote fait, distingue, il essaie de découvrir cette finalité propre à la politique, distingue de la finalité propre de l'homme. Capable d'atteindre le bien séparé et de le contempler. C'est ça, avant tout. Aristote va alors faire quelque chose d'extrêmement important. C'est de fonder la politique sur la famille. Ça, c'est tout à fait nouveau par rapport à Platon. Il y a une première communauté naturelle qui est la famille. Qui est une communauté naturelle, comme l'amitié est un bien naturel. Mais toujours le souci d'Aristote de fonder l'éthique sur la nature, de fonder la politique sur la nature. Ce que les modernes ont une peine énorme, parce que depuis Occam, on n'a plus du tout le sens de la nature. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on oppose constamment une éthique personnaliste et une éthique s'appuyant sur la nature. Et on pousse ça jusqu'en théologie. Et on dit saint Thomas, la théologie morale de saint Thomas est une théologie qui repose sur la nature. Tandis que la théologie morale moderne est une théologie personnaliste. C'est radicalement fou. Parce que la personne implique la nature. Et la nature humaine implique la personne. Donc ce sont de fausses distinctions. Une fois qu'il y a une fausse distinction, après il n'y a plus rien du tout. Il faut donc revenir à quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est pour ça qu'il est bon de regarder comment Aristote distingue l'éthique et la politique. Ça c'est très important. De voir cet enchevêtrement dans l'ordre existentiel, dans l'ordre de l'exercice, et en même temps cette distinction qu'il fait dans l'ordre de l'analyse, dans l'ordre de l'analyse de l'éthique et de la politique. Donc, premier aspect que je crois très important, la famille est le fondement. C'est une communauté radicale, fondamentale, parce qu'elle atteint un bien substantiel. silence.